franceinter.fr.
Les fleurs de magnolia, me disiez-vous, Alain Baraton, sont superbes et ressemblent à des tulipes.
Eh oui, elles sont en ce moment bien visibles. Elles sont le plus souvent blanches ou roses et elles apparaissent avant le feuillage. Mais attention, il existe une grande diversité de magnolia et tous ne fleurissent pas au printemps, comme la variété Grandiflora qui attend l'été pour se couvrir de fleurs.
Et depuis quand est-ce qu'on peut en voir dans nos jardins?
Le tout premier magnolia qui fleurit en Europe est planté à Londres en 1688, la date est précise, et il est originaire de l'état de Virginie en Amérique. Le magnolia Grandiflora, celui qui conserve son feuillage en hiver, est introduit un peu plus tard en 1711. Il est planté à Nantes par René d'Arquistade, armateur et maire de la ville.
Mais il y a eu un problème.
Et de taille. Notre homme a beau guetter tous les ans la floraison, rien, jamais, pas le moindre bouton. Imaginez sa déception. Pendant 20 ans, il annonce à son entourage qu'il possède une rareté végétale et pendant 20 ans, il ne présente à ses amis qu'un arbre banal avec des feuilles banales et sans jamais la moindre fleur. Il est si contrarié qu'il décide de couper l'arbre.
Vive les femmes! Parce que la femme du jardinier qui n'aime pas tuer les plantes persuade son mari de laisser l'arbre en paix.
Et celui-ci transplante le magnolia et l'installe sous les fenêtres de leur maison. Et l'arbre se met à fleurir. Les botanistes, enfin et par dizaines, viennent l'admirer. Mieux, il le multiplie. Il se dit aujourd'hui, légende ou réalité, allez savoir, que tous les magnolias Grandiflora de France sont les descendants de l'arbre de Monsieur d'Arquistade.
C'est vraisemblable ?
Bah pourquoi pas, et j'aime de toute façon ce genre de légende, donc ne cherchons pas trop, mais ce n'est pas impossible.
Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé magnolia ?
Il est ainsi nommé en hommage à Pierre Magnol, mort en 1715, année de la mort d'ailleurs de Louis XIV. Il fut le directeur du jardin botanique de Montpellier et auteur de la première classification des plantes par famille.
Quand je pense qu'un jour il y aura des baratonia,
les magnolias... Avouez que ça aurait de l'allure.
Eh bah, bien comment ? Eh oui. Mais vous ne serez plus là pour le voir. Ouais. Les magnolias ne sont pas tous originaires du continent américain, me dit-on.
Oui, comme le magnolia de Kobe ou magnolia Kobus qui est originaire du continent asiatique. C'est un arbre superbe, malheureusement trop rare dans nos jardins et dans nos parcs. Il en existe toutefois un exemplaire, et depuis peu, dans les jardins de l'hôtel Matignon. Il a été planté par le Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a rappelé aux journalistes présents, et non sans malice, que dans son pays d'origine, la Corée, cet arbre magnolia est symbole de fidélité.
Adélaïde est dans la peine, on peut dire ça comme ça, parce qu'elle ne sait pas comment tailler des pieds de kiwi.
Le kiwi est un arbuste qui réclamerait, d'après certains, une taille pour fructifier. Je constate qu'à Versailles, là où j'ai la chance de travailler...
En toute simplicité.
Oui, c'est vrai. Nous avons des kiwis qui ornent les murs, car je rappelle que ce sont des lianes qui prennent vraiment beaucoup de place. Chaque fois que mes collaborateurs...
Il y en a de la place à Versailles.
Chaque fois que mes collaborateurs, et Dieu sait s'ils sont compétents, taillent les kiwis, l'année suivante, il n'y a pas ou très peu de fruits. Et je constate également, en me promenant parfois dans des potagers abandonnés, que les kiwis qui n'ont pas vu un sécateur depuis une éternité sont couverts de fruits. Eh bien, moi, je dis simplement que tant qu'une plante produit des fleurs, on n'y touche pas, on verra bien. Donc, la taille, pourquoi pas? Mais honnêtement, c'est comme la glycine. On peut parfois se passer du sécateur et observer la floraison ou la fructification d'un végétal.
Sauriez-vous répondre à cette question? À quelle distance faut-il espacer les pieds de tomates? Lucien voudrait le savoir.
À une distance suffisante, comme aurait répondu le regretté Fernand Renaud, pour permettre tout simplement au soleil déjà de baigner l'intégralité de la plante, pour permettre également à l'air de circuler de manière, j'allais dire, facile, parce que n'oublions pas que la tomate est une plante qui souffre de quantité de maladies dites cryptogamiques, et que c'est justement l'absence de circulation de l'air qui favorise l'humidité. Donc, pour répondre à la question, on va dire un petit mètre de distance entre chaque pied ne me paraît pas de trop. Petite précision également, ne pas oublier de supprimer systématiquement les feuilles basses qui touchent la terre, car c'est comme nous avec les pieds, c'est par là qu'on prend froid.
Et pas de bouillie bordelaise.
Voilà, on évite la bouillie bordelaise et on se rappelle...
Je vous écoute.
Oui, non mais c'est très bien, et on se rappelle également que la tomate est une plante originaire d'Amérique centrale et du Sud, qu'elle n'a donc pas besoin de quantité d'eau inouïe, mais que quand on l'arrose, il faut le faire de manière régulière. Quand on arrose des pieds de tomate, quand on a le temps, quand on y pense, que se passe-t-il ? Eh bien, elle développe la maladie dite du cul noir. C'est tout simple. Eh bien, il y a une partie qui est noire et qui franc le fruit impropre à la consommation. L'occasion également de rappeler, je profite de la présence de François Régis, pour rappeler la différence entre un fruit et un légume botaniquement. Un fruit est toujours obtenu par une fleur. Un légume est la partie d'un végétal que l'on consomme. Une carotte est un légume. Une tomate, un haricot
Une aubergine.
Une aubergine, ce sont des fruits.
Et je sais, parce que j'ai lu votre livre sur le camélia de votre maman, j'y reviens encore une fois, que vous ne supportez pas qu'on jette un seul légume parce que vous avez vu votre grand-père s'occuper des siens.
Oui, bah, l'occasion de laisser un message. Quand vous mangez un produit, et François Régis le sait mieux que personne, il y a derrière ce produit eh bien, le travail des femmes et des hommes. Un légume, il n'est pas venu tout seul. Il a fallu de l'eau, il a fallu de l'énergie, il a voulu de la volonté. Il a fallu quelqu'un qui un matin se réveille quand vous dormiez encore, quelqu'un qui le soir parfois tardivement aller l'arroser, il a fallu de l'amour, il a fallu de la patience. Et l'idée, effectivement, de jeter un fruit ou un légume parce qu'une petite tache, parce qu'il a été cueilli un petit peu trop tôt, parce qu'il est abîmé, je trouve ça insupportable. Vous avez des gens sur la planète qui meurent de faim, et nous, en France, eh bien, on chipote parfois pour une petite tache sur un fruit. Je trouve ça insupportable. Le végétal, le fruit, le légume, comme l'animal d'ailleurs, se respecte.
Bravo Baraton,
bien dit.
Merci.
En ce moment, c'est la saison des lilas. Hein. Les lilas sont en fleurs. Est-ce qu'il y a un truc pour garder plus longtemps un bouquet de lilas? Voudrait savoir Colette.
C'est pas facile. Je dois avouer que ce n'est pas facile, car même lorsque j'offre un bouquet de fleurs à ma femme, et Dieu sait,
c'est quand même très rare.
Si je lui en offre souvent, si elle m'entend, elle va téléphoner pour se plaindre. Il faut donc déjà commencer par écraser la base.
Donc, c'est pas vous qui lui offrez les fleurs qui a chez vous. Elle en reçoit d'un autre homme.
Voilà, c'est agréable. Donc, il faut écraser la base de la tige déjà. Deuxièmement, il faut mettre. Du lilas. Deuxièmement, il faut mettre une petite goutte d'eau de javel dans le vase parce qu'il y a un phénomène de croupissement rapide. Et ce phénomène du croupissement rapide empêche la plante d'absorber l'eau normalement car les canaux se bouchent. D'où un flétrissement hâtif du végétal. Troisièmement, il faut cueillir le lilas, bien sûr, le matin ou le soir à la fraîche, quand les boutons sont à peine ouverts, voire entrouverts. Et puis le soir, on met les bouquets, dans une pièce la plus fraîche de préférence.
En fait, il faut bosser à mi-temps si on a un bouquet de lilas chez soi. Ouais.
Alors, donc, ce que l'on fait, on profite du lilas dans le jardin. Et puis, je vous rappelle cette phrase magnifique de Théodore Monod, qui cueille une fleur, dérange une étoile.
C'est vrai, vous avez certainement un conseil de lecture à nous donner.
Un conseil de lecture qui m'a été d'ailleurs conseillé par Alain Bougrain-Dubourg, « Fleurs et arbres en bord de chemin ». C'est un livre
excellent.
C'est un livre de Marc Giraud. Oui. Les photographies sont de Fabrice Caez et Marc Giraud. Eh bien, c'est tout simplement une promenade le long des chemins de France, l'occasion de découvrir ces fleurs et ces arbres qui poussent de manière spontanée. C'est superbement rédigé, c'est intelligent. C'est publié par Delachaux et NSV. Et moi, j'aime bien donner le prix. C'est 24,90 €.
Comme je vous dis, à chaque fois qu'il fait un cadeau, il donne le prix.